Avec les membres du FMI et de l'Union européenne, accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a demandé, c'est marqué ben, Gosport en grève. On aurait pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
Rajouter que ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Ceux qui appellent, en tout cas, sont des jeunes totalement irresponsables.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Là, il y a une manif sauvage qui est partie de Place Guichard.
Parce qu'on était où, Place Guichard, c'était quoi?
C'était Nuit Debout. J'espère que tous les auditeurs de Radio Canu connaissent Nuit Debout. Parce qu'on a fait un Midi Debout lundi à l'émission Montagnoise de Tug. Et il y a intérêt à ce que tout le monde soit au courant. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas le nier. Il y a un côté mouvement de foule. Mais je pense que c'est bon. Et quand on crie Lyon, tout le monde debout, soulève-toi, il faudrait que tout le monde descende dans la rue. On voit qu'il y a plein de gens qui nous applaudissent depuis les vitres. Et ça fait plaisir.
Bah je sais pas trop, en fait c'est parti en manif sauvage d'un coup. Il y a un groupe qui s'est créé, qui a commencé à lancer le truc. Il y a beaucoup de curieux dont je fais partie qui ont un peu suivi le truc. Là je sais pas où ils vont, je crois qu'ils vont au Comico du 3ème là, mais.
Qu'est-ce qui a fait que toi t'es venu du coup alors que t'es plutôt curieux, que t'es pas.
Ah bah parce que moi je suis là, je suis au Nuit Debout depuis la semaine dernière déjà. Et puis voilà, j'essaie d'écouter un peu les débats. Des fois ça traîne un peu parce qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de gens qui. Enfin, c'est plus des confrontations de monologues pour l'instant que des vrais débats. Il y a des choses vraiment bien qui se disent aussi. Il y a des mouvements qui se créent qui sont vraiment bien là. Les micros dans les quartiers et tout. Mais.
Oh là là, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe là maintenant? C'est quoi qui se passe là?
Et bah là, il y a pas mal de gens sur le cours Gambetta, je dirais qu'on est, je sais pas, 200. Et en fait, voilà, les gens sont partis spontanément en manif sauvage depuis la place Guichard, où il y avait Nuit Debout après pas mal d'interventions qui disaient qu'il faut pas opposer les modes d'action et qu'en fait, on n'aura rien sans faire des blocages, des manifs sauvages et des choses comme ça. Il n'y a pas de flics et on s'amuse bien.
Bah du coup on est le collectif d'étudiants sans papiers solidaires. Et du coup, aujourd'hui, on faisait une manifestation parce qu'on va déposer des dossiers. On va faire un dépôt collectif à la préfecture. C'est-à-dire qu'on amène un certain nombre de dossiers. Là, il y avait 5 dossiers. Et l'idée, c'est vraiment de créer un rapport de force collectif pour pouvoir mettre la pression à la préfecture, dire que derrière ces personnes, il y a un collectif qui les soutient et pouvoir obtenir la régularisation.
Sachant qu'en se mobilisant, donc le collectif s'est monté dans l'été 2015, justement en bataillant, en arrivant, voilà, en instaurant un rapport de force collectif, on a réussi à inscrire à Lyon 2 plus d'une trentaine de sans-papiers. Donc voilà, du coup on a déjà des premières victoires grâce à la mobilisation. Donc aujourd'hui c'est une autre étape, c'est l'étape de la régularisation. Donc là il y a quelques dossiers qui sont déposés, mais en réalité le collectif il regroupe plus d'une soixantaine, voire peut-être 80 personnes qui sont soit en demande d'asile, soit sans papier.
Parce que du coup, les dossiers que vous déposez, c'est pour des personnes qui ont réussi à s'inscrire à la fac, mais qui restent sans papier.
Oui, voilà. C'est des personnes, du coup, qui depuis le début de l'année, on a bataillé pour pouvoir les inscrire, parce qu'il faut savoir que déjà, les sans-papiers, ils ont le droit de s'inscrire à l'université, mais beaucoup ne le savent pas.
Et la présidence de Lyon 2, du coup, elle a pris position là-dessus? Est-ce qu'elle a fait du cas par cas ou...
Non, la présidence elle a pas pris position là, c'est plus un soutien des professeurs. Du coup, par rapport à ça, c'est vrai que
ils avaient quand même pris position au moment où du coup on essayait d'inscrire les camarades, quoi, puisqu'ils nous avaient envoyé les flics à l'époque. Il y avait eu une convocation d'un membre du collectif commissariat. En début d'année, pour le second semestre, la douzaine de personnes qu'on essayait de présenter, on a réussi, tous ceux qui ont passé les entretiens, qui ont reçu les autorisations d'inscription dès maintenant, en fait, voilà.
Mais du coup, par rapport à la répression, Vincent il a été convoqué au commissariat. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles, donc apparemment, ils ont... Peut-être il n'y a pas de suite. Mais du coup, ils voulaient nous démobiliser, nous faire peur. Derrière, on a montré qu'au contraire, plus ils nous répriment, plus on va se mobiliser, plus on va être solidaire. Et au final, ça a eu quand même un impact. Ce qu'elle a dit, c'est que les camarades, ils ont réussi à avoir leur inscription. Mais il faut savoir quand même qu'ils ont mis en place une procédure de sélection où ils posaient des questions qui sont des questions quand tu viens à la préfecture et pas à l'université, de poser ce genre de questions sur ton pays d'origine, pour voir en gros si tu es vraiment soit un vrai demandeur d'asile, soit un vrai sans-papier qui a fui, des trucs comme ça. Donc les camarades nous ont raconté effectivement, même il y a des profs qui ont fait des communiqués là-dessus en disant que c'était complètement illégal de poser ce genre de questions.
Et suite à ces entretiens, il y a des gens qui n'ont pas été acceptés à l'université. Vous savez pourquoi ?
Il y a eu 12 personnes, dont 4 qui n'ont pas répondu au mail, soit parce qu'ils l'ont pas vu, soit parce qu'ils ont dit qu'ils l'avaient envoyé, mais en fait non. Donc les gens, ils sont retournés. Voir la présidence pour dire on n'a pas reçu le mail et tout. Donc ils ont fait 2 entretiens et au final il y a 8 personnes qui ont passé les entretiens et ils nous ont dit qu'il y avait 7 et les camarades nous ont dit que 7 personnes ont eu leur autorisation d'inscription et il manque une personne pour résoudre son cas d'inscription. Mais du coup là, il y a d'autres personnes qui arrivent, on a des nouveaux dossiers.
Des avions et des bateaux de carton. N'oublie pas, supplie pas.
Donc pour la L1, pour les étrangers, là c'est bloqué, c'est déjà fermé. Si tu es demandeur d'asile, tu peux encore, il y a une procédure. Pour les L2, L3 et les masters, c'est encore possible, mais les L1, ça a déjà bloqué pour un certain nombre. On a 5 dossiers. Donc là, l'idée, c'est d'aller voir le vice-président encore et mettre la pression. Et sinon, on va continuer l'année prochaine jusqu'à ce que tout le monde puisse être inscrit.
Donc vous restez mobilisés.
Ouais, toujours. Et en plus, les camarades, tout le monde est très déterminé. Donc je pense que le collectif, il va continuer à se mobiliser et à grandir parce qu'il y a beaucoup de gens qui, en peu de temps, qui nous ont contactés, qui sont venus nous voir.
N'oublie pas, supplie pas. Car tout se plie, les lois.
moi je suis un étudiant ici en master en information et communication à Bron et je suis en situation irrégulière vu que je n'ai jamais demandé un titre de séjour parce que je suis arrivé ici pour une formation. Après ma formation, j'ai tardivement trouvé un master qui va à mon profit. Je l'ai trouvé en cours de l'année, 2 mois après la rentrée scolaire, au mois de novembre. Du coup, bon, c'est ma première demande et je suis soutenu par le collectif des étudiants étrangers.
Donc, parce que ça veut dire qu'actuellement, du coup, tu continues tes études alors que tu es en situation régulière.
Ouais, je continue mes études. J'ai même un mémoire à faire de recherche. Je suis à la recherche des stages, ce qui n'est pas évident parce que vu ma situation, ça va être trop compliqué pour avoir un stage. Je suis là pour des études. Après les études, je rentre chez moi. Mais je suis là pour des études. Il faut qu'ils me laissent au moins me donner une situation agréable pour être un bon étudiant. Parce qu'on vit des situations précaires. Sans emploi, ni logement. Bon, tu es hébergé de gauche à droite. C'est compliqué, quoi. Du coup, le collectif a inscrit plus de 20 étudiants cette année, qui sont des étudiants sans papier. Et l'année prochaine aussi, on va continuer la lutte pour inscrire le maximum d'étudiants. Et le collectif aide, je ne vais pas dire financièrement aux étudiants, mais ils aident les étudiants dans le plan pédagogique et dans le plan même matériel didactique d'études. Franchement, le collectif est là pour nous soutenir. Et c'est la première démarche pour la régularisation des étudiants sans papier. Aujourd'hui, c'est le premier essai du collectif et nous espérons qu'on va gagner comme on a gagné à l'université.
Et comment on peut faire si on veut vous soutenir, par exemple?
Ouais, pour nous soutenir, on a des pétitions et on a des réunions tous les mercredis à partir de 18h30 à l'Université Lyon 2 sur les quais, des salles D003.
Et du coup, le rassemblement aujourd'hui, là, il y avait beaucoup de personnes en soutien?
Ouais, parce que bon, la police a dit 150, mais c'est faux. On a plus de 250 personnes. Oui, ça se voit, mais arrivé à la préfecture, à notre grande surprise, le directeur du cabinet il dit que vous êtes 150, mais c'est archi faux. Aujourd'hui, on a rassemblé 250. Nous, franchement, on fait l'appel à toute la population lyonnaise, que ce soit d'origine française, d'origine arabe, sans papier, avec papier, de venir soutenir le collectif des étudiants de Lyon 2. La régularisation massive des étudiants sans papier, parce que nous vivons franchement des situations très compliquées. On est bien comme ça, mais à l'intérieur on est très mal, franchement.
Mes yeux sont gorgés, différence que dans mon corps coule un peu d'Orient, mêlé de France, c'est que de ma planète. J'ai vu le monde et ses couleurs, on a goûté les saveurs, on a perçu les senteurs. J'ai partagé les
mots. En fait, si on parle en vrai, je veux dire, la résistance fait partie de moi, si je parle particulièrement sur moi. Donc là, je suis libre. Tant que je respecte, comme je vous ai dit, je respecte la République, je suis intégré, je ne fais de mal à personne, je suis là pour étudier, j'ai ma carte d'étudiant, je n'ai pas peur. Je sais que peut-être demain, ils vont venir me chercher, peut-être demain, ils vont, m'obliger à quitter le territoire, mais je veux dire, mes idées, je continuerai à demander ce savoir. Non, j'espère bien que les autres personnes vont nous soutenir et vont un peu penser à nous. Parce que là, en tant qu'étudiant, on a déjà des problèmes. On a déjà des problèmes, je veux dire, au niveau de travail et tout. Donc, et surtout les étudiants qui ne sont pas boursiers. Il y a plein d'étudiants qui ne sont pas boursiers pour les accords, je ne sais pas. Il y a plein d'accords qui nous bloquent. Voilà, je demande juste un soutien pour les autres, pour nous aider à avancer.
C'est pas voilà. SOS racisme, Camidi, c'est nos valeurs. C'est le partage. La force des choses et des carnages, les brassages de force, de lutesse et de Carthage. L'écartèlement des cartes et des globes écarquillés. Les bavardages au sujet de peuples éparpillés. Les bombardements de villages, des exodes et des pillages. Les squelettes de continents sucés de la moelle au cartilage. Et demain au petit-déj, un gros incontinent lira tranquillement la bourse comme un hommage. Il pliera le journal et jettera les feuilles gaspillées, comme il gaspillera un peu plus d'air à respirer. Alors pourquoi on ne brûlerait pas tous nos passeports pour leur envoyer encore un peu plus de chaleur? Des cartes postales signées, on t'embrasse fort. Venus des 1000 coins du monde, des pôles ou des équateurs, laissons débouler des
hier soir à la préfecture, Alors, si on peut peut-être juste redire deux, trois mots sur le collectif des étudiants et étudiantes étrangères et étrangères de Lyon sans papier et sans papier et solidaire. C'est un collectif qui s'est créé sur Lyon en 2015 et du coup qui regroupe des étrangers et des étrangères avec ou sans papier, étudiants et étudiantes, et qui se battent pour obtenir une inscription ou tout simplement un titre de séjour. Si on veut les contacter, c'est tout simplement à collectif.étudiants.étrangers.lyon@riseup.net ou alors par leur Facebook qui du coup se trouve dans un moteur de recherche. Il suffit de taper collectif des étudiantes étrangers de Lyon sans papier et solidaire. Donc voilà pour le mouvement des étudiants et étudiantes de Lyon. On peut maintenant du coup passer à la lutte sur le droit à l'avortement en Pologne.
Et oui, parce que du coup ce soir, suite au rassemblement qui a eu lieu lundi, et pour parler aussi d'autres choses, on reçoit Anne qui nous vient en tant que membre du planning familial et du collectif de défense IVG.
Bonjour. Donc, je vais vous présenter d'abord le collectif de défense de l'IVG, auquel participe le planning familial, qui regroupe des associations, des partis politiques, des syndicats, qui s'étaient constitués lors de la fermeture de l'Hôtel Dieu pour défendre le centre d'IVG de l'Hôtel Dieu. Et maintenant, ce collectif a pour mission de veiller à l'accès au droit à l'IVG, donc sur la région lyonnaise, et à des actions de solidarité et de soutien. Et cette action qui a été montée donc pour ce lundi 11 avril a été décidée dans les suites des alertes que nous avons reçues sur la menace du droit à l'IVG en Pologne. Alors, ce qui se passe en Pologne, c'est que les Polonaises étaient déjà victimes d'un accès fort restreint à l'IVG au vu des lois qui ont été mises en place en 93, et cet acte était restreint et uniquement dans certaines situations, donc dans les cas de pathologie ou de malformation grave du fœtus, dans les cas où cette grossesse faisait suite à un viol ou un inceste, et s'il y avait un risque avéré pour la santé ou la vie de la mère. Et donc, dans ces cas-là, l'accès à l'IVG était uniquement soumis à la décision d'un juge ou à la décision des médecins. En sachant aussi que ces décisions étaient tellement restrictives qu'il y avait des situations où, bien qu'étant dans ces cas-là, les femmes ne pouvaient pas avoir recours à l'IVG. Et déjà, la Cour européenne des droits de l'homme avait retoqué la Pologne en lui disant qu'il fallait quand même qu'elle donne l'accès aux femmes pour avorter dans les conditions restreintes. Et depuis que le parti conservateur Droit et Justice est au pouvoir, en alliance avec l'Église catholique, le projet de restreindre encore plus l'accès à l'IVG est en projet. Cet accès donc sera pénalisé. Dans le projet, les médecins qui pratiqueront des IVG risqueront 5 ans de prison. L'accès à la pilule abortive, la pilule du lendemain, la pilule d'urgence sera interdit et pénalisé, comme s'il s'agit d'un meurtre. Et puis le statut de l'embryon va réémerger, c'est-à-dire que tout avortement sera pénalisé, comme s'il s'agissait de l'atteinte d'un être humain une fois né. Les mineurs seront obligés de poursuivre leur grossesse, de même que les femmes enceintes qui sont enceintes suite à un viol. Donc on a fait cette manifestation, il y a eu vraiment 200 personnes qui se sont rassemblées avec nous au pied du consulat, et puis on a fait un arbre à cintres, puisque les cintres c'est le symbole d'une régression et d'un accès à l'IVG avec les moyens locaux qui tuent les femmes, c'est-à-dire le fil de fer. On a fait un arbre à cintre, on a communiqué toutes ces photos aux Polonaises, et on espère que toutes les villes d'Europe qui auront fait la même chose vont converger, et que du coup les Polonaises sauront tous les soutiens dont elles ont bénéficié de par l'Europe. Et en Europe, ce qui est très important, c'est de savoir que si la Pologne régresse, en fait, elle n'est pas la seule à avoir des droits très restreints et très menacés. Par exemple, en Irlande du Nord, qui pourtant est pas très loin du Royaume-Uni, les droits sont tellement restreints que très récemment, une jeune femme qui avait une grossesse non désirée a été dans l'impossibilité de gagner le Royaume-Uni faute de moyens. Et donc, elle a acheté des pilules abortives sur Internet et elle a été dénoncée et elle est passée devant la justice et a été condamnée à 3 mois de prison avec sursis. De même, en Italie, par exemple, l'Italie qui a une législation qui est identique à la nôtre, qui ressemble, les médecins font valoir leur droit à la clause de conscience et donc ne pratiquent pas des IVG, et à tel point que le Conseil de l'Europe a dit à l'Italie de se donner les moyens de faire accéder aux femmes aux droits auxquels elles pouvaient prétendre. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir une loi, mais encore faut-il que l'accès, en fait, soit en adéquation avec les lois qui sont promulguées. Et en fait, en France, notre collectif de veille sur l'IVG, c'est exactement ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'on a des lois qui sont plutôt en progression. Et notre rôle, c'est de veiller à leur bonne application et à l'accès des femmes dans de bonnes conditions de sécurité, de qualité au centre d'IVG.
Et du coup, ce que tu disais, c'est que, enfin, il y a à la fois les lois qui peuvent être restrictives, les mouvements que font les personnes, et notamment en Pologne, moi, si j'avais bien compris ce que vous disiez au rassemblement, c'est aussi que c'est des mouvements pro-vie qui lancent des pétitions pour faire reculer le droit qui est déjà très restrictif. Et en France, il y a eu aussi des rassemblements dernièrement, c'est ça, le 12 mars, du mouvement pro-vie.
Alors, c'est vrai que quand on est dans la lutte pour les droits à l'avortement, le droit à l'accès à la contraception, on a plus tendance de parler de anti-choix, parce que en fait, nous aussi, on est pro-vie. Oui. Ce qu'on souhaite, c'est que les personnes, elles aient le choix de poursuivre une grossesse si elles le souhaitent, et puis de l'interrompre si elles se sentent pas. Donc on parle vraiment des lobbies anti-choix. C'est des lobbies qui sont très puissants, qui sont financés par les mouvements rétrogrades et catholiques de l'Amérique, qui sont largement disséminés en Europe et qui agissent au niveau du Parlement européen. Qui se mettent dans des places de pouvoir, en particulier sur la Commission européenne des droits de la femme, pour retoquer et pour freiner et interrompre toute velléité de progrès pour les droits des femmes. Donc c'est des lobbies qui sont très puissants. La France n'est pas en reste parce qu'elle a quelques associations du type l'association Jérôme Lejeune, qui a historiquement toujours lutté contre l'accès à l'avortement. Et donc d'autres associations catholiques qui se fédèrent actuellement pour restreindre ces droits à l'avortement. Donc ce qui s'est passé, c'est que les associations françaisfrançaises ont mené la danse et convergé pour qu'il y ait une pétition d'initiative européenne. Ces pétitions qui peuvent, si elles accumulent 1 million de voix, donner lieu à une proposition de loi européenne. Et donc la pétition d'initiative européenne qui a été pilotée par 20 associations européennes, dont 4 françaises, a recueilli 1 900 000 voix, ce qui est énorme. Et la France n'était pas en reste par rapport à tous les pays comme la Pologne ou Malte ou l'Irlande du Sud. Donc on a vraiment une vigilance par rapport à tout le mouvement de la Manif pour tous qui a cristallisé cette opposition. Et donc, qui fait partie aussi des lobbying de restriction de ces droits.
Et ça, du coup, concrètement, ça agit aussi, ce que vous nous expliquez avant l'émission, ça agit aussi au niveau de la région.
Oui. Alors,
derniers votes de budget.
Oui. Ce qui se passe, c'est que ces anti-choix se sont fédérés, se sont rassemblés le 12 mars. Donc, ils s'organisent. Et comme je vous l'ai dit, la manif pour tous est clairement très impliquée et très mobilisée et sollicitée. Et Laurent Wauquiez, qui en fait est très impliqué aussi dans la manif pour tous, avait promis, en tout cas quand il était candidat, qu'il supprimerait la carte EMRA pour les jeunes, donc au motif qu'il faut pas assister, l'assistanat c'est trop, et c'est vrai que la carte EMRA c'est un gros budget de la région qui assiste vraiment les jeunes, qui leur permet d'accéder à la culture. C'est une honte, quoi. C'est gaspiller l'argent public. Non, mais c'est, je fais de l'humour. Dans cette carte EMRA, en fait, il y a quelques feuillets qui concernent le pass contraception. C'est-à-dire qu'en même temps que les jeunes peuvent avoir un accès à la culture, ils peuvent aussi avoir un accès à des consultations de médecins, à des examens pour une première contraception. Et cet accès permet à des personnes qui sont éloignées des centres de contraception, des personnes soit de la ruralité, soit qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas accéder aux CIVG les centres de contraception et les centres de planification, ça leur permet d'aller gratuitement et anonymement accéder à un médecin, par exemple. Il y a un réseau de médecins qui fonctionne avec la carte EMRA. Donc, au budget, on n'a pas vu de ligne budgétaire qui correspondait à ce passe contraception. Donc, évidemment, s'il n'y a pas de ligne budgétaire, on se doute qu'il n'y aura pas de financement. Wauquiez s'en est dédié, mais il faut être très vigilant pour ça, et on va se mobiliser avec la région Île-de-France et toute la France pour être très vigilant sur ces budgets régionaux qui sont en train d'être votés.
Ok, bah merci beaucoup. Et tu peux nous donner peut-être une adresse ou quelque chose sur Internet ou pour suivre les actualités du collectif de défense IVG ?
Alors, vous pouvez accéder au site du planning qui suit de très près ça. Et en ce moment, il y a la constitution d'un collectif national et un hashtag pour défendre les passes contraception. Mais les informations seront mises en ligne sur le site du planning familial.
Ok, merci beaucoup.
Eh ben hier, donc c'était le vote du budget, et il y a des gens qui sont allés, puisque tout se passait hier, des cheminots qui sont allés manifester devant l'hôtel de région à Confluence pendant le vote du budget, parce qu'ils s'opposent à la politique régionale en matière de transport ferroviaire, et notamment, on va pouvoir l'entendre dans les entretiens qui suivent, à la suppression des contrôleurs dans les rames.
Militant Sudrail du syndicat de Lyon. Le sujet principal, c'est le maintien des contrôleurs à bord des trains sur la région Rhône-Alpes, parce qu'il y a un projet de la direction de l'entreprise de les supprimer, comme ils ont fait en région parisienne depuis 30 ans maintenant, hein, donc supprimer la présence du service public à bord. Et on pense que c'est vraiment un mauvais signe qui est donné en termes de service public sur les TER de la région. Et d'autre part aussi, il y a des fermetures de lignes ferroviaires qui s'annoncent avec la loi Macron et la substitution des trains par les bus, hein, de plus en plus systématiquement. Là, c'est la ligne Saint-Étienne-Clermont là, qui est menacée de fermeture. C'est officiel d'ici la fin de l'année.
Greg, militant CGT, conducteur à Lyon-Part-Dieu. Dans le budget transport, il y a une nette inflexion pour un report vers la route. Et ça ne nous va pas du tout. Ça va à l'encontre d'un petit peu de toute la politique qui a été menée jusqu'à présent pour le développement du TER. Et le report du trafic routier, enfin de toutes les voitures qui encombrent les grandes agglomérations, et pas seulement, mais aussi les vallées et les campagnes de la région Rhône-Alpine et Auvergne, pour que les gens puissent prendre le train facilement. Si le train régresse dans la région, ce sera un retour en arrière pour les usagers, bien sûr, et pour l'écologie plus généralement, puisque la route va se développer à nouveau, et c'est un non-sens à l'époque actuelle dans laquelle on vit.
Le projet de la direction, elle souhaite le mettre mettre en œuvre au 1er juillet, ce sera immédiatement 40 emplois qui sont menacés. Au-delà de la question de l'emploi, qui est aussi très importante pour nous, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait du service public aux usagers. Bon, il y a beaucoup de gens qui voient le contrôleur uniquement sur les aspects répressifs, mais le contrôleur a tout un ensemble d'autres missions liées à la sécurité ferroviaire, liées à l'assistance aux voyageurs, prise en charge de soucis, de pépins de santé à bord des trains, etc. Il y a tous ces rôles-là qui ne seront plus assurés par personne à bord des trains, et c'est vraiment un recul très très important en termes de maintien du service public. Après avoir fermé des dizaines de gares sur l'ensemble de la région, il y aura bientôt plus un cheminot pour renseigner et venir en aide aux usagers quand il y a un pépin, quand il y a quoi que ce soit. Donc c'est une désertification des gares et des trains qui se dessine.
Juste sur le plan des contrôleurs, c'est pas forcément facile à comprendre pour tout le monde, parce que voilà, le contrôleur c'est aussi la répression. Là il y a eu la loi Savary avec le projet de loi fraude qui dit qu'ils sont menacés de prison les personnes qu'il faudrait plus de 3 fois dans l'année. C'est quoi la position par rapport à ça?
Alors le côté répressif, c'est pas que ça. Bien sûr, c'est une mission de la SNCF que tous les passagers soient en règle à bord des trains. Malheureusement, les fermetures de guichets et de gares font que les passagers sont obligés souvent de voyager en fraude, puisque il n'y a pas de distributeur, ou le distributeur est en panne, ou alors il y a trop la queue sur le distributeur, si quand bien même il y en a un. C'est-à-dire que c'est les voyageurs qui sont obligés de voyager en fraude dans la mesure où les guichets sont fermés, quoi.
On pense que là, il y a une criminalisation dangereuse des usagers qui seront en infraction à bord des trains. Nous, je rappelle que notre revendication de base peut être utopiste, hein, mais c'est que les transports en commun soient gratuits pour l'ensemble des citoyens dans ce pays et que chacun puisse accéder au service public ferroviaire, quel que soit son niveau de ressources et son niveau de moyens. Donc là, il y a un vrai débat de société aussi de ce qu'on fait du service de transport public, que ce soit les transports urbains ou que ce soit les transports en train. De plus en plus, on est dans une boîte qui cherche à faire du fric sur le dos des usagers. On le voit avec les augmentations de prix des billets TGV et grandes lignes. On n'est plus sur une logique. On avait avant, il y a 20 ans, le barème kilométrique, quelle que soit l'origine destination dans ce pays. Quand on payait son billet, on payait le même prix en fonction du nombre de kilomètres qu'on parcourait. Et là, on est dans une logique purement commerciale et libérale de dire on fait payer les trains très chers aux heures où il y a beaucoup de gens qui veulent les emprunter. C'est la loi de l'offre et de la demande. Hein. Et on fait des prix moins chers quand il y a moins de gens qui sont intéressés pour prendre les trains. Donc pour en revenir à ce sujet-là, nous, on pense que c'est dangereux la criminalisation des usagers à bord des trains et que c'est pas la bonne direction dans laquelle il faut aller non plus. Quoi.
Laurent Wauquiez est avec nous.
L'Assistana est aujourd'hui un des vrais cancers de la société française.
Merci beaucoup Laurent Wauquiez de nous avoir rejoint, mais évidemment tout de suite. Comment vous vous sentez ce soir?
Je pense qu'on a une région qui est extraordinaire. Elle a un potentiel fabuleux. Je pense qu'on a du potentiel, on a de l'énergie, on a des ressources. Ce que je veux, c'est que notre région soit la première région de France. C'est que ce soit un modèle de ce qu'on peut réussir en France et que tout simplement chez nous, oui, je l'assume, on puisse se dire, voilà le modèle d'une France qui a retrouvé ses repères.
On a été reçu par Patrick Mignola, le vice-président au transport. On a à la fois exprimé nos inquiétudes par rapport aux orientations régionales au niveau ferroviaire, c'est-à-dire les gares qui ferment les unes après les autres, et maintenant des lignes ferroviaires entières et pas des moindres qui ont prévu de fermer ces prochains mois. Ensuite, évidemment, le sujet principal aujourd'hui est la suppression des contrôleurs à bord des trains, prévue première étape à partir de fin août prochain. Il faut être clair que la SNCF, ce qu'elle recherche, mais comme le Conseil régional, c'est de supprimer des emplois avec ce projet. Tout ce qui peut se raconter d'autre, on n'y croit pas une seconde. Et c'est uniquement, effectivement, faire des gains de productivité et supprimer du personnel. La réponse aujourd'hui du Conseil régional, c'est on ne veut pas s'immiscer dans la gestion interne de l'entreprise et dans l'organisation. Ça les regarde, la manière dont ils font circuler les trains, avec un contrôleur ou pas à bord. On va évidemment, vu les réponses, les non-réponses apportées aujourd'hui, faire monter la mobilisation. Et le prochain coup, ce ne sera pas que les cheminots, ce sera cheminots et usagers qui sont derrière nous, ensemble, pour interpeller le Conseil régional. La réponse aujourd'hui, si on ne se positionnera pas, eh bien on va les contraindre, nous, à se positionner sur le sujet. C'est l'argent public, l'argent des citoyens qui est distribué pour faire rouler les trains avec un contrôleur à bord. Le budget transport ne baisse pas d'un centime en 2016 et on nous explique que les trains vont circuler sans contrôleur à bord en payant la même chose. Il y a un truc complètement déconnant et on ne laissera pas passer. Donc on reviendra interpeller le Conseil régional et la majorité en place. Laurent Wauquiez, s'il ne donne pas son aval et son accord sur ce projet-là, ça ne peut pas se mettre en place. C'est lui qui est décisionnaire, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on reviendra avec les usagers.
Ouais,
Canu. Info.
Gendarmerie nationale ! Arrêtez un peu les conneries, là, non ?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature ? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État ?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info. Nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Et voilà, après toutes ces infos locales, donc on se rend compte que ça bouge beaucoup à Lyon, donc sortez de chez vous, que vous soyez debout ou pas. On va passer du coup à la rubrique nationale et on va aller du côté de Mayotte parce que là-bas aussi il y a un gros mouvement social depuis plus de 15 jours dont on parle malheureusement pas du tout assez. Et on a la chance d'avoir avec nous ce soir Mathieu et Idriss pour nous en parler.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de Mayotte aujourd'hui ?
Eh ben, pourquoi est-ce qu'on parle de Mayotte ? Parce qu'au final, quand on regarde bien, on oublie souvent qu'on a des départements, des régions d'outre-mer qui appartiennent à la République. Et pourtant, en général, quand on entend parler, c'est parce que il y a l'Office du tourisme qui vous dit « Allez-y, il y a des plages, c'est cool, il y a des montagnes, super. » Ou éventuellement, qu'il y a des attaques de requins. Mais derrière, en fait, c'est un peuple qui, derrière, réellement, aujourd'hui, se mobilise sur Mayotte. Enfin, pour vous donner un petit peu une idée, aujourd'hui, on a depuis 17 jours une grève générale qui a été à l'appel de l'ensemble de l'intersyndicale. Donc, je vais juste vous citer CGT, FSU, CFDT, Solidaire, SAEM, notamment aussi les transporteurs maritimes, etc. pour demander l'égalité. Et donc ça, je pense que c'est peut-être plus Idriss qui va développer tout ça.
Ouais, alors, faut savoir que le Mayotte, depuis 2011, c'est le 101e département français. Mais bon, pas tout le monde le sait. Pourquoi ? Parce que, comme a dit Mathieu, sur le code de la communication, c'est que lorsqu'il y a des attaques de requins, voilà, je vais pas passer dessus. Mais il faut savoir qu'à Mayotte, il y a des vrais problèmes. Je vous cite juste quelques exemples. Le RSA en métropole, il est à 524 euros et quelques. Et pour un Français qui habite à Mayotte, il est à 262 euros. Donc on peut se poser la question, comment est-ce qu'on peut vivre avec 262 euros si on n'a pas de travail ? Ensuite, le SMIC horaire, il est à 7,30. Et voilà, quoi, il y a beaucoup de problèmes comme ça. Ici, encore 39 heures. Donc il y a aussi il y a beaucoup d'encore problèmes même au niveau des égalités. Je vous donne juste quelques exemples encore. Il y a une ville qui s'appelle Sada à Mayotte. Il y a 10 000 habitants et un seul supermarché. Donc du coup, les gens quand ils vont faire les courses, pas tout le monde a la chance d'avoir les produits de nécessité. Donc c'est des problèmes qui se posent et on n'en parle pas assez des Outre-mer, on ne parle pas assez de Mayotte. Et ça se voit qu'aujourd'hui, ça depuis quelques années, ça pète. Et voilà, il faut absolument que les gens prennent conscience de ça et que les gens, que le gouvernement donne une égalité pour la métropole et pour le département d'Outre-mer, notamment Mayotte.
Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe depuis 15 jours exactement à Mayotte ?
Depuis 15 jours, alors juste pour rebondir, c'est un petit truc sur ce que disait Idriss à l'instant, notamment un truc qui n'existe pas à Mayotte, c'est le code du travail. En fait, il n'est pas encore en application. Voilà, et donc, du coup, je pense que c'est assez représentatif effectivement de ce qui se passe actuellement. Et du coup, ce qui se passe depuis 17 jours exactement et non pas 15, en gros, c'est vraiment un mouvement social d'ampleur. Qui du coup porte pas sur le code du travail, tout simplement parce qu'il y en a pas, et que les gens là-bas n'ont pas de travail. Il faut quand même situer qu'aujourd'hui on est à 85% de population qui est sous le seuil de pauvreté. Donc ce qui est à peu près au niveau du chômage, je sais pas les chiffres là en tête, mais sont à peu près équivalents, quoi. Donc c'est quand même assez hallucinant. Et du coup c'est vraiment une mobilisation générale qui a lieu, comme je le disais, à l'appel de l'ensemble des syndicats de travailleurs pour appeler du coup à la grève générale, au barrage routier, etc. Alors là depuis 17 jours, donc on est vraiment dans une situation de blocage concrètement, de blocage de la situation. Aujourd'hui, il y avait une rencontre qui était prévue du coup entre donc les représentants de l'intersyndicale et du coup le ministère des Outre-mer et le secrétariat d'État à l'égalité réelle. Alors on n'a pas de retour là-dessus, mais ce qu'on voit, c'est que par contre la réponse de l'État a été assez rapide. C'est-à-dire que hier même des renforts sont arrivés sur Mayotte. renfort évidemment des forces de l'ordre, hein, enfin voilà, et qui ont non pas essayé de discuter avec les manifestants, mais qui ont plutôt décidé de lever eux-mêmes les barrages routiers qui avaient été mis en place. Et donc quand on voit qu'on a également derrière une situation qui est explosive d'un point de vue social, parce que ben les gens quand ils ont pas de taf, quand ils ont pas de thunes, ben, à un moment ou à un autre, ben, oui ça pète quoi, voilà. Ce qui ça donne tout simplement, c'est du coup depuis maintenant 15 jours des émeutes assez répétées, voilà vraiment une situation explosive sur place.
Et du coup, tu disais que c'était une situation qui n'était pas spécifique forcément qu'à Mayotte, mais aussi à beaucoup de départements d'outre-mer.
Ouais, tout à fait. Enfin, c'est alors peut-être pas au même niveau parce que oui, depuis 2011, Mayotte n'est département français que depuis 2011. Et du coup, parce que on décide effectivement que vu que c'est pas des départements, il y a pas forcément les mêmes lois qui se mettent en place, etc., etc. Il y a aussi des éléments qui expliquent pourquoi est-ce que il y a tout ça qui s'entraîne. Mais pour autant, c'est aussi une situation un peu généralisée aujourd'hui, en tout cas dans les départements et régions d'outre-mer. Enfin, pour le coup, tous les deux, on est originaire de la Réunion et c'est, pareil en fait. Enfin, une situation sociale qui est explosive, alors même que. Bah pour le coup, la Réunion, ça fait depuis 1946 que c'est un département. Et donc, techniquement, les lois de la République, l'égalité réelle, etc., elle est censée être mise en place. Sauf qu'en fait, ce n'est pas le cas. Enfin, on a, pareil, hein, 55% de la population qui est sous le seuil de pauvreté, 40% de chômage à peu près, si je ne me trompe pas, peut-être 36%.
Le plus fort chez les jeunes.
Voilà, le plus fort chez les jeunes, à 75%. Et du coup, pareil, une mobilisation qui est en train de se mettre en place. Alors, pas générale pour l'instant. On y reviendra après, mais il y a des éléments qui ont fait que sur les dernières années, il y a eu pas mal de mobilisations, de mouvements sociaux, etc., etc. Mais là depuis 15 jours. Alors, d'abord les dockers et le secteur du BTP qui a commencé à se mobiliser. Là également les transporteurs qui ont commencé à suivre aujourd'hui. C'est également du coup des barrages routiers qui ont été mis en place, c'est des opérations escargots, etc., etc. Une rencontre avec la préfecture qui a eu lieu, oui, parce que c'est la préfecture qui gère tout, quand on est dans les outre-mer, qui a eu lieu aujourd'hui. Très honnêtement, on n'a pas de retour là-dessus parce que c'était là cet après-midi, mais vraiment une situation explosive également, parce que quand on nous dit que oui, vous inquiétez pas, vous êtes citoyen de la République et du coup vous avez l'égalité, etc., etc., force est de constater que quand on est sur place, en fait, cette égalité, on ne la voit pas, quoi. Et que concrètement, on a encore un État qui derrière mène encore une politique qui, loin d'être celle de l'égalité réelle, on pourrait peut-être la qualifier sur certains points d'un peu post-colonial, quoi.
Et du coup, oui, comme tu disais, c'est que c'est des mouvements, il y a des sonnettes d'alarme qui sonnent depuis plusieurs années, et à Mayotte, et dans les départements d'outre-mer en général, sur ces conditions.
Ouais, en ce qui concerne Mayotte, après la départementalisation, ils sont rencontrés eux-mêmes, qui sont français, mais qui n'ont pas les mêmes niveaux d'égalité. Du coup, il y a un mouvement social qui s'est créé à Mayotte, c'est la première sonnette d'alarme qui a été tirée. Aujourd'hui encore, ils sont encore dans le mouvement pour tirer une nouvelle sonnette d'alarme, mais personne ne les écoute. À La Réunion, c'est la même chose, je crois que c'était en 2009.
Ouais, c'est ça, il y avait eu à peu près la même chose dans les Antilles. Voilà. Du coup, juste pour situer aussi, en 2011, l'armée avait été appelée en renfort à Mayotte. Donc voilà.
Après voilà quoi, c'est pas la première fois que ce genre de mouvement se passe en outre-mer. Hein. On a bien vu le COSPAR à La Réunion, un gros mouvement social qui a mobilisé au moins 40 000 personnes de La Réunion, un gros mouvement social historique de La Réunion, mais aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui est concret. Pourquoi ? Parce que c'est pas l'État en elle-même, même si le préfet, c'est l'État, bref, c'est pas l'État en elle-même qui va venir se déplacer pour dire oui, il y a un manque d'égalité, mais quand il faut faire des voix, quand il faut venir prendre des voix pour les élections, là, on voit que les départements d'outre-mer existent, quoi. Donc, du coup, on voit les gens arriver, mais en vrai, la situation, elle est tout à fait le contraire, quoi.
Bon, du coup, moi, je suis très contente que vous soyez dans les studios ce soir parce que ça fait aussi mettre à jour des situations qui sont même peu débattues dans les Canu Info. On pense pas forcément non plus prendre le temps de faire ça et qui sont, je pense, à être mises à jour. Est-ce que, du coup, vous avez des choses à dire? Est-ce que vous pensez que ce mouvement social, il peut aboutir à quelque chose ou pas?
En vérité, est-ce qu'il peut aboutir? Je pense que c'est vraiment une très bonne question, mais Parce que, le truc, c'est que dans tous les cas, tant que l'État ne comprendra pas qu'effectivement, les populations des Outre-mer, parce qu'on a parlé de la Réunion, on a parlé de Mayotte, mais il faut voir que la même situation, c'est dans les Antilles également, également sur les pays ou collectivités à statut propre, tels que la Nouvelle-Calédonie, vraiment, il y a une situation assez généralisée là-dessus, de ras-le-bol, de misère sociale, etc., etc. Et que les alertes, en fait, comme on disait, il y en a déjà eu. Et en fait, elles se renouvellent, quoi. Pour donner une petite idée, une situation de mouvement social généralisé et des meutes qui ont lieu, du coup, sur 5 ans sur Mayotte, la même chose à La Réunion, et avec assez régulièrement des quartiers qui s'embrasent, etc., etc. Pour un moment, effectivement, qu'il y a quelque chose qui bouge. Et quand on voit que, pour le coup, je pense que c'est aussi la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un contexte social de façon globale en France qui fait que aujourd'hui les gens se mobilisent là aujourd'hui sur la loi travail, mais également du coup sur les questions d'état d'urgence, etc., etc., avec par ailleurs aussi ce qui se passe avec l'Uni debout. Moi, je pense que c'est quelque chose de positif, et que vraiment on va pouvoir aussi pour ces départements là peut-être pouvoir arriver derrière à obtenir vraiment des revendications, des avancées, quoi, parce que juste la situation ne peut plus tenir.
Tout a été dit, je pense, hein. Rien à rajouter.
Eh ben, merci du coup beaucoup pour vos interventions et votre présence ici à la radio. Merci. Et sans transition aucune, on va passer du coup aux luttes plus internationales et du côté du Kurdistan. Donc c'est une chronique qu'on vous fait maintenant de manière hebdomadaire toutes les semaines sur le canal Info du vendredi. On reviendra pas du coup sur les luttes de manière générale au Kurdistan, mais on va essayer de vous donner des nouvelles très récentes de ce qui se passe là-bas. Ces derniers mois ont vu un embrasement de la violence de l'État turc contre les populations vivant au Kurdistan du Nord. Aujourd'hui encore, la répression augmente de jour en jour, les états de siège et les assassinats se maintiennent, mais la résistance continue.
Donc, samedi dernier, les femmes du KJA, le Congrès des femmes libres, ont organisé une manifestation contre les violences faites aux femmes et aux enfants en temps de guerre à Ahmed, en turc Diyarbakir. En réponse, le déploiement policier a été considérable et la marche interdite. Loin de baisser les bras, les femmes ont maintenu la manifestation et organisé un sit-in. Elles ont rapidement été entourées par la police, assistées de véhicules blindés. Le lendemain, 14 personnes du KJA et du BDP, le Parti de la Paix et de la Démocratie, ont été arrêtées. Le 13 avril, 4 femmes du KJA ont elles aussi été arrêtées.
Nusaybin et Jever, les couvre-feux sont maintenus. Les affrontements qui éclatent en réponse continuent tout autant. Derrière le nom de couvre-feu, l'État turc cache un important dispositif militaire et des pratiques de massacre. Les villes ou certains quartiers sont entourés de blindés bombardés. Les habitants sont visés par des attaques armées, des violences quotidiennes et des assassinats. Les habitations comme les lieux de sociabilité sont volontairement détruits. Nusaybin traverse aujourd'hui son 32e jour de siège. L'État turc envisage d'envoyer des tanks blindés pour tirer.
À Lis, la résistance continue. Les YPS, Unité de Protection Civile, principal groupe armé de la résistance kurde en Turquie, ont fait exploser une bombe contre la police lundi soir. Les sources officielles font état de 7 morts.
Voilà du coup pour les informations hebdomadaires des luttes au Kurdistan. La suite la semaine prochaine.
Et donc on passe sans transition aucune comme d'habitude à l'agenda du vendredi. Alors week-end très chargé à Lyon et ailleurs. Alors notamment parce que, comme vous le savez certainement, le 17 avril, c'est la journée internationale des luttes paysannes. Parce que le 17 avril 1996, la police d'État du Pará au Brésil tirait à balles réelles sur une manifestation du mouvement des sans-terres et tuait 19 personnes et en blessait des centaines d'autres. Pour protéger les propriétaires des latifundistes, ces grands propriétaires qui possèdent 80% des surfaces agricoles brésiliennes. Depuis, la Via Campesina, un réseau international d'organisations paysannes de pêcheurs, pêcheuses et d'indigènes, a déclaré cette journée internationale de lutte paysanne, en hommage aux victimes et afin de rendre visible de dénoncer la criminalisation des manifestations et les persécutions et violences auxquelles doivent faire face quotidiennement les paysannes et paysans à cause du développement du modèle néolibéral et de l'agrobusiness dans les campagnes. Donc c'est une journée qui a lieu chaque année. Et on vous propose deux événements super pour la fêter tous ensemble. Alors si vous avez un week-end où vous n'avez pas trop quoi faire, vous n'avez pas envie de rester à Lyon, bah, c'est l'occasion d'aller à Bure, du coup dans la Meuse, à 4h de Lyon, le 16 et 17 avril pour le printemps des luttes paysannes. Alors, comme vous savez, Bure, c'est un lieu de... où il y a un projet de construire un lieu de stockage de déchets nucléaires. Donc, il y a un collectif qui s'appelle Terre de Bure qui s'est créé à cette occasion pour, du coup, organiser une résistance. Et c'est ces collectifs Terre de Bure qui organisent le 16 et 17 avril ces deux jours de printemps de lutte paysanne pour discuter, donc... d'action, de résistance paysanne et évidemment de résistance à ce projet de poubelle nucléaire. Donc le rendez-vous est sur le terrain de l'ancienne gare de Luméville en Ornois, à 6 km de Bure, que vous allez sûrement trouver facilement avec votre GPS. Et vous pouvez arriver dès le vendredi 15 avril, donc c'est maintenant, si vous voulez y aller rapidement. Et voilà, ça a l'air génial, mais si vous ne pouvez pas vous déplacer, bah, autant rester à Lyon et écouter la radio, parce qu'en fait, Radio Canu vous propose 24 heures des luttes paysannes. Donc, c'est l'émission Les paysannes et paysans dans la lutte des classes qui prend l'antenne pendant 24 heures de samedi à 15h à dimanche 15h, donc sur 102.2. Vous pouvez trouver le programme de l'émission sur Rébellion ou sur le site de Radio Canu. Donc, le samedi, il y a aussi plein d'autres choses à faire si vous n'avez pas envie de faire ça. Donc, le choix difficile. Alors, il y a une conférence le samedi 16 avril à 14h sur la répression politique en Turquie. Donc, à la maison de la Mésopotamie, 11 rue Mazagran, Lyon 7e. Cette conférence est organisée par la maison de la Mésopotamie et le groupe antifasciste Lyon et environ. Donc conférence d'information sur la situation en Turquie et au Kurdistan. Mais vous n'êtes pas content, vous êtes allé là-bas à 14h, vous n'êtes pas content à 15h, vous avez la possibilité de changer d'endroit. Vous allez à la Griffe, la librairie au 5 rue Sébastien Griffe, où aura lieu une rencontre en débat sur la cause animale, donc autour du livre Anarchie et cause animale. Et ensuite, toujours le 16 avril, mais à 16h, vous pouvez goûter un peu de tout ça, il y a la présentation du journal L'Envolée à Terre des Livres, donc Terre des Livres, librairie au 86 rue de Marseille. L'Envolée est un journal qui paraît 4 fois par an, et il publie les lettres des prisonniers qu'un collectif reçoit, des comptes rendus de procès auxquels ils assistent, et des analyses sur la société et ses lois. Donc c'est en partenariat avec La Petite Cuillère, l'émission contre toutes les prisons, qui passe sur Canu tous les 2e, 4e et 5e jeudis de chaque mois de 20 à 21h. Et voilà pour ce soir. On vous souhaite une bonne soirée.
Oui, bon week-end et bonne lutte. Et n'oubliez pas...
Paniquez pas.
Niquez tout.
On a été le premier groupe à être banni d'Angleterre. Leur musique était jugée offensante par les associations parents.
Les paroles de certaines chansons peuvent-elles être à l'origine de troubles de l'ordre public ? C'est en tout cas la crainte de la Confédération nationale des associations.